Phil PM. La voix est libre.
We are a tree of life. You can cut off some branches from our tree. But Tree of Life has been in Pittsburgh for 154 years. We're not going anywhere. I will not let hate close down my building.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'est le rabbin Jeffrey Myers, le rabbin donc de cette synagogue qui a été attaqué en fin de semaine. 11 victimes. La synagogue, arbre de vie, Tree of Life, et le rabbin qui dit... On est ici depuis plus de 150 ans, puis on ne va pas laisser la haine nous envahir ou fermer notre synagogue. Luc Lavoie, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Évidemment, c'est la montée de l'antisémitisme dont tu veux nous parler, de la mauvaise nouvelle du jour. Hein. Pour toi, c'est
ouais,
ça, là.
Oui, ouais. Parce que, bon, d'abord, aux États-Unis, l'antisémitisme a toujours existé comme ailleurs dans le monde. Là, je ne les pointe pas en particulier du doigt. Mais il n'y a pas eu ce genre de crime haineux à travers l'histoire. 11 morts comme ça, c'est jamais arrivé.
Il y en a qui disent que c'est la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis.
C'est la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis. Parallèlement à ça, vous avez en Europe où il y a de plus en plus d'actes d'antisémitisme qui sont commis dans des cimetières juifs, devant des commerces juifs.
On en a eu ici aussi, hein, des pierres tombales aussi. Dans des cimetières juifs qui ont été...
Et ça, l'antisémitisme, c'est un mal de la civilisation qui est incroyable, je veux dire. Ça existait à l'époque de l'Antiquité romaine et ça n'a jamais cessé. L'antisémitisme fait partie de l'Occident depuis plus de 2000 ans.
C'est comme un mal de l'histoire humaine.
C'est un mal de l'histoire humaine qui est assez difficile à comprendre, qui fait également partie de notre histoire. Moi, je me souviens très bien... Et pourtant, c'est quelqu'un qui pensait pas qu'elle était antisémite. On jouait au Monopoly en famille. Il y avait une de mes tantes, là, quand elle essayait une transaction un peu folle, elle disait « Fais pas ton juif, là. »
Mon petit juif.
Ou mon petit juif.
Fais pas ton petit juif.
Ouais. Alors, tu sais, ça vient aussi être l'Église catholique qui a considéré que les Juifs étaient les meurtriers du Christ alors que le Christ était lui-même juif.
Oui.
Je recommande à des gens qui s'intéressent à la chose d'un livre de Jacques Attali, cet intellectuel français, qui est lui-même juif et qui a écrit les Juifs, le monde et l'argent, qui est une tentative d'essayer de comprendre comment ils ont été comme ça, harcelés toute leur vie depuis des milliers d'années.
Comment ils ont été les boucs émissaires.
Les boucs émissaires de notre civilisation.
Oui.
Tout ce qu'il y avait de mal, on le pointait vers eux.
Exact.
Tu sais, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, c'est les pogroms à la fin du 19e siècle en Russie, c'est évidemment l'Holocauste, mais c'est des tas d'autres crimes qui ont été commis à travers l'histoire et ça refait toujours surface. Par exemple, depuis à peu près un an, ça date de plus longtemps que ça, mais depuis un an en accéléré, là, la cible des extrémistes, c'est un certain George Soros. Mmh. George Soros, c'est un juif d'origine hongroise qui a survécu à l'Holocauste à Budapest. Il y a maintenant près de 90 ans. Il est venu bâtir une fortune en Amérique qui est une des plus grandes fortunes au monde, des dizaines de milliards de dollars, et qui a choisi d'être le mécène des organisations de la gauche, parce que la gauche n'avait pas de mécène.
Oui.
Alors, soudainement, il est devenu là, celui vers qui on se tourne, qu'on pointe du doigt. Tout ce qui arrive, c'est de sa faute. Par exemple...
Les migrants qui montent,
on a accusé George Soros d'avoir payé du monde pour être là-dedans et d'avoir payé les camions dans lesquels on les transporte. Mmh. L'idée étant d'aider les Juifs à prendre le contrôle des États-Unis. Et à un moment donné, tu as le président Trump, dont le gendre Jared Kushner est un Juif orthodoxe en plus.
Oui.
Dont la femme, donc la fille de Donald Trump, Ivanka, s'est convertie au judaïsme. Donc, les petits-enfants sont des Juifs, eux aussi. Mmh. Et t'as Trump, il y a une semaine, dans un rallye politique, dans une de ses assemblées politiques qu'il fait pratiquement chaque jour, présentement, a été parlé de George Soros. Puis là, la foule a commencé à crier « Lock him up », mettez-le en dedans, mettez-le en prison. Et Trump répétait avec eux « Lock him up », alors qu'on sait très bien que c'est une manifestation de l'antisémitisme. Dans notre histoire, il y a eu beaucoup d'antisémitisme ici, au Québec, autant dans la communauté anglophone que francophone. Je veux dire, les anglophones de Montréal, qui étaient si puissants dans les années 30, tout ça, interdisaient aux Juifs d'entrer dans un certain nombre de facultés de l'Université McGill.
J'allais dire McGill,
ben oui. Et ils interdisaient qu'ils jouent au golf dans les clubs de golf de non-Juifs.
Il y a eu du côté canadien-français aussi un courant antisémite.
Du côté canadien-français, dont le chanoine Gros a fait partie.
Il y a eu des moments,
Ça ne dit pas tout à propos du chanoine Gros, mais ça dit qu'à cette époque, ces choses-là existaient. Et là, de voir ça ressurgir comme ça, ça me donne des frissons dans le dos. c'est le peuple juif est un très grand peuple qui a beaucoup donné à l'humanité en termes d'écrivains, de penseurs, de philosophes, de musiciens, d'inventeurs, de scientifiques.
Einstein,
entre autres.
Ben oui.
C'est un peuple, le général de Gaulle avait dit, un peuple d'élite. C'est vrai, quand tu les fréquentes, je les connais bien, moi j'ai travaillé avec eux, tout ça. C'est un peuple où les gens, dès leur naissance, se font dire « t'es un juif, donc il va falloir que tu sois instruit, puis il va falloir que tu travailles à l'école comme un fou, parce que nous autres, les juifs, il faut toujours qu'on soit les meilleurs, sans ça, on va disparaître, parce qu'il y a toujours des forces obscures qui veulent nous faire disparaître. »
Qui viennent de se manifester en fin de semaine.
Et qui viennent de se manifester en fin de semaine, et moi, je te le dis, ça me donne des frissons.
On pensait que c'était fini avec le... Enfin, on pensait que l'Holocauste avait, une fois pour toutes, réglé le cas des antisémites. Parce que l'horreur était tellement grande, on se disait, au terme de l'Holocauste, avec toutes ces images, 6 millions de morts, là, ça va faire, c'est fini. Là. T'sais, le monde va réaliser qu'il faut maintenant se guérir de ce mal. Ils ont payé, ils ont assez payé. Ben non,
ça arrête jamais. Ça arrête jamais. Il y a eu des crimes affreux en France, sur la rue des Rosiers, entre autres, le fameux attentat qu'il y avait eu là. On avait mitraillé dans des commerces de Juifs. C'est dans le Marais à Paris, pour ceux qui connaissent l'endroit. On en voit surgir encore en Allemagne. Pourtant, l'Allemagne, c'est un pays qui aurait dû apprendre. On voit encore de l'antisémitisme se manifester. Puis l'antisémitisme a tendance à se coller sur l'extrême droite parce que c'est une forme d'extrémisme. C'est une maladie, ça. C'est un fléau mental. Surtout nous, à Montréal, là, on a une communauté juive qui a beaucoup donné à sa communauté. Vraiment, l'Orchestre symphonique de Montréal, on peut dire merci à la communauté juive. Puis le Musée des beaux-arts, on peut dire merci à la communauté juive. Puis ils font partie intégrante de qui nous sommes.
Absolument.
C'est Leonard Cohen, OK? Puis c'est tous ces gens-là qui ont...
Puis rappelons-le que Montréal a été l'une des principales villes à accueillir les survivants de l'Holocauste.
Oui,
les survivants de l'Holocauste, le premier endroit, si je ne m'abuse, où ils ont trouvé refuge, c'est New York.
Oui.
Et le deuxième, si je ne m'abuse, le deuxième endroit où on a le plus...
C'est à Montréal.
Montréal qui a accueilli le deuxième plus grand nombre de survivants de l'Holocauste. Alors, oui, et il ne faut jamais oublier que le premier député juif a siégé dans l'Empire britannique, Hart. Hart, député élu à Trois-Rivières.
Oui.
Hein, à Trois-Rivières. Ézéchiel Hart.
Voilà.
Député de confession juive. La première fois qu'il est élu, on lui refuse le droit de siéger à l'Assemblée du Bas-Canada parce qu'il est juif. Et c'est Louis-Joseph Papineau qui dit ça va faire. On va permettre à ce député-là de siéger. Et le Parlement du Bas-Canada est devenu le premier Parlement de l'Empire britannique à permettre aux députés juifs de siéger en bonne et due forme.
On devrait être très fiers de ça.
Voilà.
Mais il faut toujours se méfier. J'entends parfois des gens que je connais bien et que j'aime bien qui viennent des régions. Puis il y en a un l'autre jour là, qui me parlait d'un entrepreneur là, qui voulait avoir recours à ses services comme avocat. Puis il dit, moi, tu sais, c'est un juif, les juifs, je suis pas trop fort là-dessus. Je dis, mais c'est quoi le problème?
Mais non,
tu connais pas les juifs. Oui, je les connais, les juifs. D'où ça vient, ça? D'où ça vient, ce mal-là? Ça peut pas être juste la religion qui l'a transporté. Évidemment, on reproche aux juifs constamment la même chose, d'être des comploteurs qui ont aucune loyauté au pays qu'ils habitent. Qui n'ont de loyauté qu'à leur communauté et qui ont donc un réseau mondial. Et quand tu lis le livre d'Attali que je suggérais aux gens, tu vas découvrir pourquoi c'est comme ça. Les Juifs, il y avait un rôle dans la société de la Renaissance, dans la société du Moyen-Âge. C'était eux qui faisaient les transactions, c'est eux qui étaient les argentiers de tous ces régimes-là. Entre autres, parce que l'Église catholique, entre autres Église, et par la suite l'islam, considère que des transactions financières,
c'est bassement matériel.
C'est bassement matériel. Alors, on n'aime pas les Juifs, on va leur confier ça. Alors, les Juifs, ce sont des gens qui, en Europe en particulier, parlaient 4, 5, 6 langues et qui avaient un réseau de contacts extraordinaire parce qu'ils se promenaient de ville en ville puis il y avait toujours une communauté juive. Les Juifs sont d'une grande solidarité entre eux.
Ben oui. Puis moi, je vais te dire une chose, Luc. Alors... Je vais pas défendre Israël, là. Faut faire attention, là. Israël, ils ont commis des gestes inacceptables, là. Puis, la question israélo-palestinienne n'est toujours pas réglée. Puis moi, je souhaite qu'un jour elle se règle parce que le peuple palestinien, lui aussi, a des droits.
Mais je n'accepte pas, en passant, je saute là-dessus pour dire que j'accepte pas qu'une critique d'Israël soit interprétée comme signifiant l'antisémitisme.
Absolument. On s'entend absolument là-dessus. Cela étant dit, je regarde ce que Israël a réussi à construire. Oui, il y a eu des excès, il y a eu des abus, il y a eu des choses absolument inacceptables. Je le dis, je le redis, là. Je veux juste que ce soit bien clair. Mais
en trois générations, ils ont fait renaître une langue morte.
Ouais.
Ils ont construit des universités.
Ouais.
Ils ont construit
une démocratie au Moyen-Orient qui est loin d'être parfaite.
Tout à fait.
Hein, dans sa non-reconnaissance des droits des Arabes qui grandissent en Israël, ils devraient avoir les mêmes droits, à mon avis, que les Juifs.
Absolument, mais c'est pas le cas du tout.
Il y a une forme d'apartheid, même là-dedans.
Bernard, moi, j'ose pas, parce que je sais qu'il doit y avoir... Il y a beaucoup de Juifs séfarades qui sont établis au Québec depuis à peu près 30 ans et qui sont en train de nous écouter. Je veux pas faire la critique d'Israël en dénonçant l'antisémitisme. Tu comprends? C'est parce que les gens ont tendance à faire des amalgames. Regarde Israël.
C'est vrai.
Il y en a pas d'amalgame. La communauté juive de Montréal, la communauté juive du Canada en général, c'est une communauté qui a apporté davantage à notre société que la majorité des minorités.
Mais là où je veux en venir, c'est qu'on peut être critique d'Israël puis avoir un très grand respect puis une très grande admiration pour la communauté juive.
Absolument.
Peu importe là où elle habite.
Absolument.
C'est ça.
Absolument.
C'est ça. Voilà.
Alors, mais j'essaie d'éviter de mélanger.
Non, mais si tu fais bien. Puis c'est moi qui t'ai amené là-dessus. Puis je pense que c'est important de le dire. Il y a la question d'Israël. On peut en discuter. On peut en débattre. C'est un sujet de critique. Aucun problème avec ça. Mais ce que tu as dit à propos de la communauté juive, sa contribution à la communauté, notre communauté ici...
C'est incommensurable.
C'est le meilleur
hôpital au Québec, c'est l'hôpital juif.
Voilà, exactement. OK, on s'arrête parce qu'au retour, ce sera la bonne nouvelle de Luc. Et la bonne nouvelle, Luc, ben là, je l'ai dit un peu tout à l'heure, là, c'est la réouverture de Caminien-Houde.
Toi, là, c'est à peu près temps.
Toi, là, t'es heureux, là.
Il parle toujours de transport structurant. Ça structure. Tu laisses passer les autos sur les routes, monsieur, ça structure, ça n'a pas de bon sens.
Bon, puis là, on va prendre vos appels, on va vous demander comment vous réagissez à la réouverture, donc, de la voie Caminien-Houde pour accéder au Mont-Royal, dans un instant.
Drainville PM. La voie est libre.
Il n'y en aura pas de péage. Pour moi, il faut qu'il y ait un accès qui est démocratique, égalitaire pour tout le monde. Il n'est pas question qu'il y ait de péage d'aucune manière sur le Mont-Royal.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'était Valérie Plante, la mairesse de Montréal, en mars dernier, donc qui me jurait en entrevue qu'il n'y aurait pas de péage pour accéder à la voie Caminien-Houde sur le Mont-Royal. Je veux juste vous dire, chers auditeurs, que nous sommes en Facebook Live, comme c'est le cas maintenant à peu près tout le temps avec Luc. Donc, la mairesse qui disait il n'y en aura pas de péage, elle a fini son projet pilote, mon cher Luc, et à partir de jeudi, donc les voitures vont à nouveau pouvoir traverser de part en part le Mont-Royal empruntant Caminien-Houde.
C'est pas loin de 10 000 voitures par jour qui passaient là, évidemment. On trouve qu'il n'y a pas assez de cônes orange ici, on trouve qu'il n'y a pas assez de travaux, puis de chantiers fermés, puis tout ce que tu veux. On a dit, écoute, Luc Ferrandez a pensé à ça, là. Puis il s'est dit, écoute, on va couper la route. Nous autres, on n'est pas le transport structurant, fait qu'on coupe les routes. Moi, je trouve qu'une belle forme de transport structurant, la nouvelle expression à la mode, tu sais, tu t'en vas dans un party des fêtes, tu sais pas trop comment entreprendre la conversation avec des gens que t'as pas vus depuis longtemps, tu dis, écoute, qu'est-ce que tu penses du transport structurant? Puis là, la personne dit, hey, wow, quel sujet extraordinaire. Mais ben, faisons-en du transport structurant. On avait une route, là, à traverser le Mont-Royal d'est en ouest, là, puis il y a ferme parce que je sais pas pourquoi, ils l'ont fermé parce que le transport structurant consiste à dire pas de voiture, voyons donc, allez-y à pied. Par-dessus la tête.
Prends ton bicycle. Luc Lavoie, prends ton bicycle.
Arrête de chialer,
puis prends ton bicycle. Luc Ferrandez.
La route est déjà là. Il y a une route qui a été faite. Elle n'a pas été faite pour les bicycles. La route a été faite pour les autos. Puis ça fait 2-3 générations que le monde traverse là. Moi-même, je traversais souvent là, tu te rends compte. Là, ce que j'ai fait immédiatement, je suis allé à Confesse. Mon père, je m'accuse d'avoir traversé la patente en question. Ça n'a pas de bon sens. Luc Ferrandez est tellement convaincant. C'était rendu que je me sentais coupable. Je la prenais la route parce que ça allait vite. Tu comprends? Tu peux pas faire ça. Voyons donc. Écoute, on va te bloquer, puis s'il n'y a pas assez de cônes orange, on va en mettre d'autres, mais on va bloquer la route.
Ou on va mettre un péage, peut-être.
Un petit péage, hein? Fait en passant.
Non, mais serais-tu ouvert à ça?
Un péage sur une route comme ça, pas du tout. Je suis pas du tout ouvert à ça. Sur un pont, oui, je l'aurais accepté.
Pour diminuer le nombre de voitures, faire en sorte que les piétons...
Mais pourquoi on diminuerait le nombre de voitures? Il n'y avait pas de problème sur Caminien-Houde. Il y a eu une mort qui était inacceptable, mais c'est pas parce que... ça n'a rien à voir, là.
Là, j'essaie de te craquer un peu.
Ben, tu vas me craquer bien comme il faut, Bernard, si je pars comme il faut. Moi, je suis tanné de ce monde-là qui vont commencer à me faire sentir coupable parce que je conduis une voiture, imagine-toi donc. Je veux m'en aller en vacances dans le temps des fêtes, mesdames et messieurs, je me cherche un avion électrique, je ne l'ai pas trouvé encore. Alors là, c'est la même chose. Là. Ah, j'ai une idée maintenant.
Qu'est-ce que tu as là?
Pour traverser Camillien-Houd.
Qu'est-ce que tu vas dire?
Juste les voitures électriques. C'est pas mal, hein?
Ah, c'était excellent,
c'est
ça!
C'est bon comme idée.
D'autant plus que tu voulais t'acheter une Tesla.
J'y pense. C'est cher un peu, mais c'est
vrai
une voiture
que c'est cher
assez
un peu.
Magnifique.
Ben là, t'aurais une raison de plus pour l'avoir.
Promener
tes petits-enfants en voiture électrique.
Monsieur Ferrandez, nous entendez-vous, s'il vous plaît, pourriez-vous faire en sorte que je peux traverser en voiture électrique?
Un petit rabais.
Un petit rabais, vite fait.
Un petit rabais, comme à Laval.
Ben oui.
Ils ont donné un rabais, en plus du rabais du Québec, du gouvernement du Québec.
C'est merveilleux, ça.
Ben oui. Fait que Luc pourrait te donner un petit rabais. T'amènes papy Luc amène ses petits-enfants. Le dernier, c'est qui encore, Oscar?
Oscar.
Comment il va, notre Oscar?
Oscar,
tu l'as vu en fin de semaine, là.
Il est pas mal souriant. Il est là, ben de bonne humeur. C'est clair qu'il est fou de son papy.
J'allais dire, il s'est pas mal broyé quand il t'a vu.
Non, il rit aux éclats quand il me voit. Oui.
Mon Dieu, ben il doit tenir de...
Mais là, je travaille sur lui, là, il sera pas séparatiste, ça, je te le dis tout de suite, là.
Ça, j'en doute
Puis
pas.
Il s'embarquera pas dans les patentes à gosse.
Il sera pas séparatiste, mais s'il tient du bonhomme grand-père, il va être haïssable en mode. 790-9850, bonjour Marc-Antoine, comment ça va?
Bonjour à vous en ce beau lundi pluvieux.
Très bien, très bien.
Bon, excellent. Alors, on va prendre les choses une par une. Moi, évidemment, je suis contre ça qu'on ait fermé la Camillien-Houd. C'est fourette. Premièrement, si on part la prémisse, c'est que, c'est bien triste, il y a un gars qui s'est tué à vélo. Ouais, mais le gars à vélo, il roulait plus que 30 km/h. Il roulait tellement vite qu'il n'a pas été capable d'éviter l'imbécile qui a fait un U-turn d'en face. Ça, c'est une chose. Donc, on ne mêlera pas ça, là, mais quand même. Là, maintenant, moi, j'en fais beaucoup du vélo. J'en ai fait sur Camillien-Houd. Puis Camillien-Houd, les cyclistes peuvent cohabiter. Il y a une voie sur le côté, de chaque côté. Donc, il n'y a pas de problème. Tant que les cyclistes restent dans les lignes et ne viennent pas se mettre dans le milieu de la rue, il n'y a pas de problème. Puis les voitures passent, puis c'est correct. Fait que là, je sais bien que notre facho, là, Ferrandez.
Mais là, Marc-Antoine, soignez votre langage, comme dirait ma mère.
On va vous laver la bouche avec du savon, là, vous.
Avec les old docks, j'ai un coup parti, il n'y a pas de problème.
En conclusion, Marc-Antoine.
En conclusion, ce que je dis aussi, c'est qu'il y a une autre. Suzanne Larreau, par exemple, de Vélo Québec, qui est tout le temps là pour fendre des automobilistes. J'ai jamais entendu dire aux cyclistes de rouler dans le bon sens de la route, de s'habiller pas enfoncé le soir à pleine nuit, d'avoir des éléments réfléchissants, de faire les arrêts. C'est drôle, ce discours-là, on dirait que ça fonctionne pas. C'est toujours pour fendre les maudits automobilistes.
OK. Marc-Antoine, merci pour l'appel. Lui, c'est un discours très clair, on s'entend.
C'est clair.
Par contre, je suis pas sûr quand il dit qu'il y a une part de responsabilité là, dans la mort du petit Wimet.
Moi, je n'irai pas dans ça. C'est une mort tragique. Là.
J'ai pas
c'est
le
une mort tragique.
Là, on s'entend. Bon,
c'est un accident.
Oui, voilà. Mais c'est un accident à cause de l'imprudence et la négligence
du conducteur, de
l'automobiliste. Ouais. Voilà. Michel qui nous appelle. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je suis pas un fan de M. Lavoie, avec toute honnêteté.
Ça me surprend.
Mais je reste souvent, moi, effectivement, j'ai mes aïeuls qui sont enterrés au cimetière Côte-des-Neiges. Puis je suis pas un amateur de vélo. Alors, comment je peux aller voir notre histoire au cimetière Côte-des-Neiges si j'ai pas d'accès?
Bien, il faut faire le tour de la montagne à ce moment-là.
Ouais, il faut aller loin, hein?
Il faut faire le tour, parce que c'est ça, là. Par un bout, vous pouvez monter, mais vous vous arrêtez...
À la moitié.
Puis l'autre bout, ben, c'est l'autre moitié, mais il faut que tu fasses le tour, c'est ça. Avez-vous essayé, Michel, d'aller voir vos aïeux au cimetière pendant que le projet pilote est en branle?
Malheureusement pas. À cause qu'effectivement, je suis de Repentigny.
Oui.
Alors, vous voyez le détour, puis j'ai été élevé dans le plateau Mont-Royal. J'ai fait du vélo étant jeune sur la montagne. Alors, dans mon temps, il n'avait pas d'accident. Il y a peut-être beaucoup trop de cyclistes habillés en genre de super-homme qui essayent de faire d'aller aussi vite que les voitures. Il faudrait peut-être mettre une clôture pour les demeurer sur la ligne qui devrait être.
Michel, merci
Je voulais juste vous dire une chose en terminant. Ne vous sentez pas coupable parce que vous êtes d'accord avec moi. Ils sont très nombreux comme ça.
Oui, c'est vrai ça. Hein? Ça arrive que les gens appellent pour dire « Je suis rarement d'accord avec Luc Lavoie, mais là, aujourd'hui... » Il y a Brigitte qui nous appelle. Bonjour, Brigitte.
Bonjour.
Bonjour.
Pas plus tard que samedi dernier, dimanche dernier, je suis montée sur le Mont-Royal avec un groupe dans des autocars. Mm-hmm. Et on a failli frapper un cycliste qui roulait facilement à 80 km/h à l'envers du trafic.
Bon.
Il était même pas dans la voie de côté, là. Il était carrément dans la voie. Et il s'en venait vers l'autobus, puis il s'en est rendu compte comme à la dernière seconde.
C'est déplorable, tout
Merci,
ça.
Merci, Brigitte. Ben, moi, je veux te dire, Luc, là. Tout le monde a sa responsabilité dans cette affaire-là.
Il faut cohabiter.
T'sais, ben justement, les automobilistes et les cyclistes doivent cohabiter. Les piétons aussi.
Oui.
Puis, alors, ça, évidemment, le problème, c'est que quand tu frappes un piéton, mettons, il y a plus de chances que le piéton se retrouve dans le trouble que toi, l'automobiliste. Mettons que le rapport de force n'est pas le même. Mais ultimement, le respect des règles, tout le monde doit s'y assujettir. Il faut que tout le monde respecte.
Il faut cohabiter, puis il faut le faire dans la courtoisie, puis il faut le faire sincèrement. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. On n'est pas obligé de fermer des rues en entier. C'est quoi cette histoire?
En tout cas.
C'est ça, un milieu urbain.
Cela étant dit, c'est la fin du projet pilote, mais ça veut pas dire. On peut pas présumer de la décision.
La consultation. Les gens jusqu'au 22 novembre pour s'inscrire afin de faire entendre leur opinion.
Le problème, c'est
que je pourrais très bien vous donner la conclusion du rapport.
Toi, tu penses qu'ils vont fermer la voie Camille-Aoud éventuellement?
Ben, tiens.
C'est clair?
Ben, tiens.
Pourquoi tu t'en vas pas dans la consultation? T'as le temps?
Je le fais, il m'écoute à la radio avec Bernard Drainville. Drainville, tout le monde l'écoute. Moi, je viens m'insérer dans l'émission. Puis là, il dit, les gens qui êtes responsables, s'il vous plaît, de la consultation publique, sachez que je suis en beau sacrement concernant cette affaire-là.
Oh! Retire tes paroles.
Je retire mes paroles.
Non, parlementaire.
Je l'avale. Je vais me laver la bouche avec du savon.
Avec du Old. À demain.
Salut.